VOA Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Bamako, 15h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. Agitation anglophone au Cameroun. Au moins 170 civils ont été tués depuis octobre dans les provinces anglophones du nord-ouest et du sud-ouest du pays où fait rage un conflit armé entre les séparatistes et l'armée camerounaise. C'est ce qu'affirme un rapport publié ce jeudi par Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York. Selon le document, les forces gouvernementales sur place font un usage aveugle de la force et ont tué de nombreux civils et brûlé des centaines de maisons ces 6 derniers mois. Depuis octobre dernier, au moins 170 civils ont péri dans plus de 220 incidents enregistrés dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun, souligne Human Rights Watch. Mais l'ONG de défense des droits humains n'accuse pas explicitement les forces gouvernementales d'être responsables de tous ces décès. Dans une lettre adressée à Human Rights Watch, le gouvernement camerounais affirme pour sa part ne pas reconnaître les exactions de l'armée décrites dans le rapport. Yaoundé ajoute que 31 membres des forces de sécurité ont été tués dans des opérations sur le terrain entre octobre 2018 et février 2019. Washington et Kinshasa sur le point de sceller de nouvelles relations d'affaires avec la visite la semaine prochaine aux États-Unis du président de la RDC, Félix Tshisekedi. Une relation privilégiée en termes d'investissement américain, c'est possible, de l'avis de l'ambassadeur des États-Unis en République démocratique du Congo. Mike Hammer précise toutefois qu'il faut améliorer le climat des affaires en RDC.
C'est nécessaire d'avoir un peu de familiarisation aux États-Unis, de la possibilité d'investissement aux États-Unis. La visite du président Félix Tshisekedi la prochaine semaine sera une grande opportunité pour promouvoir les opportunités au Congo, mais c'est nécessaire de combattre contre la corruption parce que s'il y a de corruption, c'est très difficile d'avoir d'investissement américain. Mais mon travail est de promouvoir les opportunités, travailler avec le gouvernement congolais pour voir qu'est-ce que c'est possible et être préparé à aider les investisseurs américains à venir s'établir ici au pays. Nous sommes prêts à travailler avec le nouveau président, Félix Tshisekedi. Son programme nous intéresse beaucoup parce qu'il a dit que ses priorités sont de combattre contre la corruption, avoir le respect pour les droits de l'homme, de fortaliser la justice, d'avoir d'investissement américain. Nous sommes prêts à soutenir ce projet. C'est un moment historique pour la RDC.
Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis en RDC, au micro de nos confrères de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Au Burundi, les trois jeunes filles âgées de 14, 15 et 17 ans sont finalement sorties de la prison pour mineurs de Ngozi, dans le nord du pays. Les parents saluent le geste de la ministre burundaise de la Justice, mais demandent aussi que ces écolières retournent à l'école. Leur détention pour avoir gribouillé la photo du président burundais Pierre Nkurunziza avait provoqué un tollé. Le point avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Après 6 jours de détention dans les provinces de Kirundo et Ngozi au nord et nord-est du Burundi, Mélise Consolate et Micheline sont enfin libres de la prison pour mineurs de Ngozi. Ils ont directement été conduits dans la province. Le procureur près de la cour d'appel de Ngozi a indiqué que les investigations judiciaires continuent, mais l'avocat des trois écolières, Prosper Yanzira, demande leur acquittement car aucun indice sérieux de culpabilité n'est perceptible. Il indique que ces livres passaient de main à main et qu'il est difficile de pointer du doigt les élèves qui auraient gribouillé les photos du président Pierre Nkurunziza. Parents et élèves n'ont pas caché leur joie lorsque le procureur, près la cour d'appel de Ngozi, province natale du président burundais, a libéré provisoirement les trois écolières. Les associations pour la défense des droits des enfants demandent que ces enfants retournent immédiatement pour suivre leur cursus scolaire. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
VOA Afrique, en direct de Washington.
Burkina Faso, 4 gendarmes burkinabés ont été tués ce jeudi matin lors d'une attaque contre la gendarmerie de Barani, frontalière du Mali, zone très instable où les attaques djihadistes sont récurrentes. La brigade territoriale de gendarmerie de Barani, située dans la province de la Kossi, a été la cible d'une attaque menée par un groupe armé non identifié aux environs de 5 heures locales étant universel. C'est ce qu'a indiqué à l'AFP une source sécuritaire. Une autre source sécuritaire également a souligné que l'attaque a occasionné la mort de 4 gendarmes et d'importants dégâts matériels, dont un véhicule incendié. Violence au Mali maintenant, l'émissaire spécial de l'ONU dans le pays, le Tchadien Mahamat Salih Anadif, réitère la nécessité d'aider les Peulés et les Dogons à vivre ensemble. Il a lancé cet appel hier dans une interview à des confrères consacrée à la tuerie du 23 mars qui a coûté la vie à au moins 160 habitants du village Peul d'Ogassogou dans le centre du Mali. Des détails avec Jean-Roger Bion.
Une enquête de l'ONU est en cours sur ce massacre commis par des chasseurs présumés Dogons. Sans se prononcer sur la responsabilité de la tuerie, l'émissaire de l'ONU et responsable de sa force de casque bleu dans le pays, la MINUSMA, a estimé que l'inacceptable avait été atteint et qu'il fallait l'arrêter. C'est le terrorisme, le djihadisme, l'extrémisme qui a propagé ce virus comme du cancer au sein de ces paisibles citoyens qui ont commencé à s'entretuer, a aussi estimé l'ancien ministre tchadien des Affaires étrangères. Depuis l'apparition il y a 4 ans dans le centre du Mali du groupe djihadiste du prédicateur Amadou Koufa, recrutant prioritairement parmi les Peuls, traditionnellement éleveurs, les affrontements se multiplient entre la communauté Peul et les ethnies Bambara et Dogon, pratiquant essentiellement l'agriculture, qui ont créé des groupes d'autodéfense.
En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika continue de perdre le soutien de certains de ses fidèles. L'ex-premier ministre Ahmed Ouya a réclamé la démission du président algérien. Le point avec Abdourahmane Dia.
Cible d'une contestation sans précédent à la suite de sa candidature à un cinquième mandat, le président Bouteflika est toujours en fonction. Il peut refuser de démissionner et le Conseil constitutionnel, dont le président est un autre proche, est le seul à pouvoir enclencher la procédure prévue par l'article 102 de la Constitution permettant d'écarter le président en cas de maladie grave et durable. Hier, le secrétaire général du RND, Ahmed Ouyaya, qui a été 3 fois premier ministre, a appelé à la démission du président pour, dit-il, faciliter la période de transition. Le patron de la puissante Union nationale des travailleurs algériens, Armel Majid Sidi Saïd, a salué l'appel du chef d'état-major de l'armée à écarter le président. Le général Ahmed Gaïd Salah, qui était un autre soutien indéfectible, a proposé mardi la mise en œuvre de l'article 102 qui organise l'intérim en cas de démission du président. Ces efforts de mise à l'écart du chef de l'État ont eu très peu d'effet sur la contestation. Hier encore, des centaines de chercheurs se sont rassemblés sur le parvis de la Grande Poste, épicentre de la contestation à Alger, pour chanter « Il y en a marre de ce pouvoir et de tout le système ».
Corne de l'Afrique, en Somalie, au moins 11 personnes ont été tuées et 16 blessées ce jeudi dans une puissante explosion près d'un restaurant situé sur une artère très fréquentée du centre de Mogadiscio, la capitale. Le bilan du nombre des morts que nous avons pu confirmer jusqu'ici est de 11 victimes et 16 autres personnes ont été blessées. Mais les pertes pourraient être plus élevées, a souligné Abdulkadir Adiraman Adan, directeur du service d'ambulance Amin à Mogadiscio. Dossier du Golan à l'ONU. Les États-Unis, de plus en plus isolés, défendent au Conseil de sécurité de l'ONU leur décision de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan syrien. Washington entend aller plus loin dans ce dossier. Idrissa Seloudia.
L'administration Trump va mettre à jour les cartes du gouvernement américain pour refléter, selon un porte-parole du département d'État, la décision du président Donald Trump de reconnaître la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. Et hier, au Conseil de sécurité de l'ONU, les États-Unis ont défendu cette décision, une position unanimement condamnée par leurs 14 partenaires de l'ONU lors d'une réunion d'urgence à la demande de la Syrie. Le Golan a été conquis en 1967 par Israël lors de la guerre israélo-arabe et annexé en 1981.
Toujours concernant le Proche-Orient, la défense antiaérienne syrienne a repoussé mercredi soir une attaque de l'aviation israélienne près d'Alep, dans le nord de la Syrie. C'est ce qu'annonce l'agence officielle de presse syrienne Sana. Les frappes israéliennes ont touché des entrepôts de munitions appartenant aux forces iraniennes et à des groupes qui leur sont alliés, opérant en soutien du régime syrien. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui fait état de 7 personnes tuées, des gardes des entrepôts. Ces victimes ne seraient ni syriennes ni iraniennes, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Merci de votre attention.